Radio.
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 Radio Caravane.
Le cirque sur les ondes.
Salut tout le monde, bienvenue dans cette troisième émission de Radio Caravane 2013, la radio du festival Caravane de Cirque. Au sommaire, Aurélien de Culture en Mouvement nous parlera des soirées solidaires, Camille, technicienne à la grainerie, nous présentera son rôle, la compagnie Comcalus répondra à nos questions. Hélène nous expliquera ce qu'est Pyrénées de Cirque, Guillaume de Cultus de Manchot nous parlera de sa compagnie, et enfin, nous recevons un invité de marque en studio, il s'agit de Joe Martinez, directeur coordinateur à la grainerie, il nous accompagne tout au long de cette émission. Bonjour Joe, dans quelques jours débute le festival Caravane de Cirque, c'est la dernière édition que vous portez et c'est aussi votre dernière année en tant que directeur coordinateur à la grainerie. Pouvez-vous nous parler de vos débuts et de votre parcours professionnel ?
Par rapport aux arts du cirque, parce que oui. J'ai eu d'autres vies antérieures et j'en aurai j'espère après. Ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'il y a les 30 ans du Lido, cette année à côté, aux Argoulets. Enfin, il y a 29 ans, j'étais jongleur amateur. Passionné par le jonglage et pas par le cirque à ce moment-là, donc je suivais des cours au Lido, au Pont des Demoiselles à l'époque. Donc c'est venu de là, et après ça s'est enchaîné rapidement, il y avait très peu de jongleurs en France à ce moment-là. Nous avons créé une compagnie, 4 personnes qui faisaient du passing, on a eu la chance, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là, de tourner en France et en Europe. Et ensuite, comme j'avais 3 enfants en bas âge, j'ai arrêté de tourner sur les plateaux, et je me suis intéressé à la production de ces spectacles. Et j'ai travaillé toujours au Lido sur les première compagnie professionnelle. Et de là, de fil en aiguille, en 97, la grainerie s'est créée. Je suis arrivé, moi, avec une structure qu'on avait créée, Acolyte, qui s'occupait de la production, diffusion, gestion des compagnies qui étaient nées au Lido, dont les Acrostiches, qui était la première. Mais il y en avait eu plein d'autres. Et ensuite, quand le projet de la grainerie s'est plus précisé, j'ai glissé d'intermittent pendant 17 ans de ma vie, artiste et technicien, de devenir permanent à la grainerie.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu artistique et culturel précisément ?
Moi, je crois que j'arrivais quand même d'aventures collectives, avec tous ces fantasmes, ces réalités et peut-être ces ambiguïtés, et que j'ai trouvé dans le spectacle vivant. Et dans les arts du cirque, ce qui s'appelait, enfin, c'est, là je vais, on met des guillemets, tout ce qui est famille de cirque, ces lignées, ces grands frères, ces petits frères qui vont naître, qui vont nous dépasser très rapidement. Si je pense, moi, jongleur, j'ai fini à 5 balles, là où d'autres allaient beaucoup plus loin, ou revenaient à une balle avec, par exemple, jonglage contact. C'est, je crois, et je répète avec quelques illusions, bien évidemment, comme dans tout corps social, sur le fait de travailler dans des équipes, de... Nous partagions tout dans la première compagnie où j'étais, comme plein d'autres compagnies. Les prises de risques étaient mutuelles. Et ça m'a beaucoup marqué, mais je venais déjà d'un parcours où on était dans ce genre d'utopie.
Vous êtes donc l'un des fondateurs de la grainerie. Parlez-nous des débuts de ce lieu. Pourquoi, à l'époque, cela vous paraissait important d'ouvrir un lieu de création autour des arts du cirque ?
Moi, je suis arrivé pas dans les premiers à la grainerie. Je suis arrivé quand ils avaient fini de faire les cloisons à 7,50 m de hauteur. Donc il y a plein de gens qu'on oublie, qui ont monté des cloisons avec des caisses d'Airbus. C'était vraiment un très beau travail, des cloisons à 17 mètres, je crois que c'est 8 mètres et quelques, pour séparer ce lieu, certaines parties. Il y avait déjà les prémices de ce qu'on retrouve ici. Et donc je tiens à saluer tous les gens de Salto Branque, l'équipe de direction, la présidente, et aussi tous les bénévoles de l'association à ce moment-là qui ont fait ça. Moi je suis arrivé donc juste après. Et nous étions dans un bureau, on sortait tous du Lido, eux compris, et on savait le besoin des compagnies professionnelles pour s'entraîner, et pour créer, pour stocker, pour monter leur chapiteau, etc. etc. Donc on a pu avoir en germe tout cela, renforcé par des compagnies historiques comme la GIT, qui avait des bureaux et qui en a toujours aujourd'hui, qui fait du théâtre itinérant sous chapiteau. Donc il y avait plusieurs intelligences qui se sont regroupées à ce moment-là, qui était un bon moment, la fin du XXe siècle, sur ces réflexions. On sortait des années langues. C'est monté très rapidement à ce moment-là des financements, mais là on était plus dans la réflexion et comment les acteurs peuvent essayer de s'emparer de leur futur.
Comment a évolué la grainerie depuis, jusqu'à aujourd'hui ?
La grainerie en a vécu 4 déménagements. On est dans le dernier. On est parti d'un lieu alternatif à peut-être un lieu aujourd'hui institutionnel. Je quitte ce bateau qui est dans de bonnes conditions architecturales, qui n'est pas encore bien bétonné côté financier. Il y a une crise mondiale, il y a des arbitrages, il y a des choses comme cela qui sont compliquées. On est dans un bâtiment qui permet à des gens de travailler dans de meilleures conditions. Et on a surtout cette salle d'entraînement aussi qui permet, qui est rare, avec un trapèze grand volant, qui permet à des gens de s'entraîner dans de bonnes conditions. C'est encore des choses qui sont trop rares en France, ces espaces-là.
Pourquoi avoir choisi ce nom, la grainerie ?
Alors, la grainerie, c'est venu des gens de Saltobranque qui ont trouvé ce lieu où c'était une ancienne historique menuiserie industrielle des années 50 sur laquelle étaient stockées les graines avant d'arriver. Alors, bien évidemment, les métaphores, on continue de les dérouler. Elles sont fondamentales puisque en fait, tout ce rapport à la fabrique, aux grains. Bon, on a peut-être une dizaine de personnes en 10 ans qui sont venues acheter du grain chez nous, pour leur poule ou autre. Mais on a quand même tout ce travail d'émergence, des choses que je trouve porteuses, qui font que ce terme-là, anecdotique au départ, est devenu très, très puissant, je trouve.
La compagnie Com Calus a répondu aux questions de Julien, Aurélia et Sarah.
Tomorrow, I will feel good.
Nous sommes à la grainerie avec l'équipe de Com Calus. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Com Calus, c'est qui ?
C'est une équipe de trapèze grand volant, de grand aérien en fait, en général, parce qu'on ne fait pas que du trapèze volant.
On est 6 ?
7. On a 7 personnes dans le groupe et on mélange tout, un petit peu de cirque et un petit peu de nouveau. Et comme moi j'étais dans le cirque et je sors comme c'est différent, et le spectacle va assez bien pour nous, pour les choses que ça donne de moi, que ça va sortir bien.
Et ça veut faire ce que veut dire, c'est que lui il sort du cirque traditionnel et que nous on essaye de rajouter une touche contemporaine dans ce qu'on fait. Et parce que le trapèze, c'est une grosse technique en fait, c'est une contrainte, c'est tout le temps en mouvement. Et donc voilà, c'est ça la difficulté, c'est de mettre du jeu dans la technique.
Du jour, la passion, et informer la chose qu'on fait. Le travail, ça, tu penses pas là que c'est un travail, on va s'amuser.
Ah, il faut s'amuser pour que ce soit bien fait, ouais. Parce que sinon tu transmets pas le plaisir que t'as aux gens qui te regardent. Donc nous on travaille là-dessus, sur un gros agré en hauteur et voilà, on essaye de mélanger la technique et le jeu en même temps. Voilà, dans une écriture burlesque, donc un peu comique.
Et rocambolesque.
Et rocambolesque.
Il a passé.
Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Quand? Depuis quand vous vous connaissez et pourquoi vous êtes mis à travailler tous ensemble?
Et là, c'est un petit peu. J'étais au cirque, on s'est trouvé au cirque, j'ai trouvé avec Fafa. Et Danton, j'ai venu pour répéter ici, et on s'est trouvé nos deux. Et on a dit, vas-y, pourquoi on monte pas un groupe de trapèze comme ça? Et ça donnait comme ça. On a commencé moi et Fafa. Après, on a rentré Francesca. Julien était déjà. Et après, les autres, on vient doucement. On
laisse en fait, tout on tous ici à la grainerie.
Le spectacle, bien.
Avec différentes personnes ou différents agrès. Et on s'est rencontrés tous ici à la grainerie, plus ou moins.
À la grainerie, par le biais aussi quand même de la compagnie Envol qui propose les cours de trapèze volant ici. Et donc, vu que moi j'étais un pote de Fabrice qui gère la compagnie, là-dessus on a donné un peu les cours avec Jérôme et Maïko est passé par là, on s'était déjà croisé avant et de fil en aiguille, tout ça, les gens se rencontrent ici.
Et là, vous avez monté donc Com Calus.
Là, on a monté Com Calus depuis le mois de janvier. On fait le projet, donc un projet de spectacle d'une trentaine de minutes. Voilà, on est au taquet, on est à fond.
Com Calus, c'est une phrase en portugais. Mmh. Qui ont dit que les oiseaux ils volent avec les ailes, mais nous qui trapézistes on vole avec les calos. En portugais, os pássaros voam com asas, e os trapézistes voam com os calos.
ce qui veut dire?
C'est le cal, ce qu'on a dans la main. On a plein de cales à la main.
Ah, d'accord, ok.
Pour la balle. Grâce à nos cales.
On grâce à notre cale,
on
peut.
Vole avec des ailes.
Pourquoi vous avez choisi ce genre de trapèze, le grand volant? Pourquoi? Apparemment, je sais qu'il y en a plusieurs sortes. Pourquoi vous avez choisi celui-là?
Ça, c'est comme la personne qui choisit la corde. C'est une question de goût. Nous, on aime bien quand ça fait des guillis dans le ventre. Et, quand tu as les jambes qui flagellent un petit peu dans le filet. Donc, du coup, on aime quand c'est haut, quand ça va un peu vite.
Et moi, chose... je crois que dans les cirques, c'est pas la personne qui choisit la grée, sinon la grée qui choisit la personne.
C'est ça, ouais.
C'est pareil, moi je peux pas rien dire parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Cette génération déjà, je peux rien dire.
Partie de la compagnie Hocus Pocus et qui s'occupe de la mise en scène, qui nous donne un coup de main pour tout ce qui est du jeu. Et après, après il n'y a aucune contrainte, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui donnons les idées, plus ou moins. Parce qu'on sait, comme Calus en fait c'est un travail de groupe, on essaye de. De laisser l'espace à chacun, que chacun puisse s'exprimer, ce qui n'est pas facile. On est 6 ou 7.
Du coup, on a fait 2 semaines de résidence et on présente le spectacle, enfin, une partie de ce qu'on a bossé le 29 mai à la Grainerie à
19h.
À 19h.
Et pourquoi vous avez choisi la Grainerie comme lieu de représentation?
Comme Calus s'est créé à la Grainerie, si tu veux. Donc, en plus, la Grainerie est une des seules salles de France, voire d'Europe, qui a ce pont aérien en intérieur. C'est quelque part histoire de faire honneur un peu à la Grainerie, qui a ouvert un trapèze magnifique en intérieur.
Une trapèze, on s'y trouve ici.
S'il y a une troupe de trapézistes français, c'est bien que ça sorte de la Grainerie. Ça fait un bon compromis. Je trouve, en plus, on est à Toulouse, la création du trapèze volant.
Et oui, le trapèze volant a été créé il y a 150 ans à Toulouse.
Je vais vous demander, la pause spectacle, du coup, se passe en extérieur ou vous faites aussi des spectacles en intérieur?
Pour l'instant, on joue en extérieur parce qu'on a accès à une structure mise à part dans la salle d'entraînement. Mais c'est une salle d'entraînement, c'est pas une salle de spectacle, hein, à la Grainerie. Donc, du coup, nous, on a une structure extérieure sur laquelle on peut proposer des spectacles. Après, par la suite, force de faire des spectacles, on aura les moyens d'avoir une structure intérieure. Puis là, on jouera dans des théâtres.
Avec Céline Dion.
On y va à Vegas.
Du coup, vous préférez quand même jouer en extérieur, non? C'est pas la même chose.
Mais après, ouais, si on veut jouer tout en extérieur, le problème, c'est que l'hiver, il faudra partir.
L'extérieur, c'est bien parce que tu te sens plus volé, en fait, vu que t'as pas de toit et t'as que le ciel, quoi. Le ciel et la terre, le vent dans les oreilles, c'est plein de nature tout ça. Tandis qu'il y a quand même la contrainte après des intempéries. Là. Par exemple, ça fait 2 jours qu'on ne peut pas répéter à l'extérieur parce qu'il pleut. Donc on est soumis à ça. Donc c'est sûr qu'on a un confort justement à pouvoir jouer.
Vous faites d'autres spectacles durant les prochains mois? Est-ce que vous avez d'autres présentations quelque part?
On joue dans le Var, à la fête de sport en lumière à Bormes-les-Mimosas. On joue dans le Var. On
le 1er juin.
Pas dit la date, ouais. 21 juillet aussi, au château de la Réole.
Qui est pas trop loin.
Là, il y a un mois de festivités chaque année au château de la Réole, à 40 minutes de Toulouse. Il y a un mois de festivités, de spectacles, de cirque, d'art de rue. Où là, on joue les 20-21 juillet à 17h30. Et on a quelques autres dates après, en août, dans le sud-est.
On reste dans le sud.
Proposer des stages d'initiation pour les trapèzes. Pourquoi vous avez décidé de faire ça?
Pour partager. Parce que tu peux pas faire du volant tout seul. Et pour faire du trapèze volant, il faut au moins 3 personnes. T'as un porteur, un voltigeur et une personne qui remet la barre. Donc si tu partages pas cet art, il y a personne qui va le perpétrer et tu vas pas pouvoir avoir plus d'acolytes. Tu vois, quand tu fais du jonglage, t'es tout seul. Donc tu peux apprendre tout seul dans ta chambre. Le trapèze, t'as pas le choix.
Faut dans ta chambre déjà, tu peux pas.
Et aussi, si on fait
c'est
pas
les... de partager,
et si on fait rien, le trapèze va finir. Si on donne pas de cours, si on fait rien, si on parle pas, on montre pas le trapèze, tout le monde va oublier. Et ça, c'est une chose qu'on ne veut pas.
Mais c'est vrai que c'est une discipline en fait qui est généralement qui vient du cirque traditionnel et qui est pas forcément accessible. Et à Toulouse, c'est un des seuls lieux en fait où ils proposent des cours, des stages pour les gens lambda, qui des gens qui font pas de cirque, etc. Et donc voilà, c'est super de toucher une technique qui est normalement réservée à une certaine classe d'artistes.
Merci de nous avoir accueillis dans cette magnifique petite caravane sur le parking de la Grainerie. Le soleil s'est levé, ouais, on est tous ensemble. Au revoir.
Merci. Et il y a le 29, hein, c'est le 29. 19h,
19h,
19h à la Grainerie. À bientôt.
Oui. À bientôt chez Concalos.
Lamine a rencontré Guillaume de Cubitus du Manchot, compagnie en plein succès.
Je suis Guillaume. Bon, il se trouve que je suis de Toulouse, originellement du Lido. Donc, je suis acrobate. Moi, la compagnie est composée d'acrobates et de musiciens.
Le Cubitus du Manchot, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est un trio d'acrobates qui se sont retrouvés proches de l'école de cirque de Nîmes, Turbule. Suite à ça, ils ont eu la ville de Mulhouse en 2009, je crois, leur a donné une carte blanche. Ils s'en sont servis pour monter un collectif de 15 personnes, acrobates comme musiciens. C'était plutôt un coup de folie, monter une compagnie comme ça à 15, sous chapiteau, c'est très compliqué, très lourd à gérer. Et ça a très bien fonctionné, ils se sont très bien entendus, ils ont décidé de poursuivre l'aventure en 2010 et ça les a menés jusqu'à aujourd'hui et encore l'année prochaine à faire des spectacles partout où ils peuvent.
Quelles sont les inspirations des artistes pour ce spectacle?
C'est un spectacle qui a été produit pas par un metteur en scène, mais par l'ensemble des artistes. Ça naît vraiment de l'intérieur des artistes. Il n'y a pas eu, je pense, un fil conducteur au départ. Chacun a amené un peu ses petites idées, ses flammes, tout ça. Et ça porte vraiment aussi sur les performances circassiennes de chacun. Donc il y a eu, dès le départ, la volonté de ne pas mettre d'aérien. C'est vraiment un spectacle acrobatique. Les disciplines sont le main à main, les portées, la bascule, la roussière. Et après, la musique qui est omniprésente dans le spectacle et qui a une grosse partie du spectacle. D'ailleurs, les artistes du spectacle forment eux-mêmes un orchestre, qui est l'Orchestre du Manchot, qui jouera aussi le 31 mai après le spectacle.
Donc vous direz que le Cubitus du Manchot est un groupe assez hétérogène, mêlant des artistes d'univers différents et mêlant un art différent?
Essentiellement, les univers sont la musique et le cirque, mais au sein du cirque, les artistes ont différentes formations, différents... vue artistique, c'est vient de différentes écoles, ont différentes disciplines. Après, géographiquement, la plupart se sont retrouvés vers Nîmes. Moi, je suis de Toulouse et deux artistes sont de Belgique.
Et vous, que faisiez-vous avant le Cubitus du Manchot?
Avant, je travaillais pour d'autres compagnies, d'autres cirques. J'ai été formé d'abord au Lido, puis ensuite à l'École nationale de cirque à Montréal. Travaillé pour des cirques là-bas au Canada, puis le cirque Plume en France pendant 5 ans, et aussi des compagnies canadiennes comme les 7 doigts de la main. Et je travaillais juste avant pour le cirque baroque.
Et c'est comme ça que le groupe vous a découvert?
Certains artistes de la compagnie, dont un des membres du trio, étaient en même temps que moi à l'École nationale de cirque à Montréal. On était dans la même promotion. Et l'artiste que je remplace également. Et on avait formé à l'époque un numéro de bascule. Donc c'est sachant que je faisais la bascule et se connaissant, cet artiste m'a demandé de le remplacer. Je connaissais à la base certains des artistes.
Ça n'a pas été difficile au début?
Ça n'a pas été trop difficile. Il se trouve que le rôle que je devais reprendre correspondait plutôt à la formation que j'avais. Ça a été assez simple aussi parce que déjà la personne était elle aussi dans la même situation que moi, assez éloignée de l'origine de la compagnie. Par conséquent, j'avais moins de choses à apprendre pour reprendre le rôle parce qu'il a fallu l'apprendre très vite. De spectacle en spectacle, j'ai trouvé ma place petit à petit parce que reprendre un rôle, c'est jamais facile. C'est toujours l'empreinte d'une autre personne. Mais tout doucement, j'arrive à tout en gardant l'origine de son rôle, à donner un peu de ma nature à moi aussi. Chaque artiste apporte sa touche personnelle, chaque rôle, chaque individualité est présente. La création vient vraiment des artistes eux-mêmes. Chaque rôle est tenu par un artiste qui a voulu ce rôle et on ne lui a pas imposé, c'est vraiment sa création propre à lui. et ce qui donne un peu d'humanité à ce spectacle.
On dit de votre spectacle qu'il est très rock'n'roll, pourquoi ?
Ça se ressent beaucoup dans l'énergie du spectacle d'une part et dans la musique, vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de peps on va dire.
Lorsqu'on parle de rock'n'roll, est-ce que pendant le spectacle vous utilisez certains pas de rock'n'roll ?
C'est pas rock'n'roll plutôt dans ce sens-là, c'est plus musical. Vous allez voir, la chanteuse est vraiment enfin, exceptionnelle, je trouve. Vous allez voir aussi dans les personnages, dont le monsieur loyal qui est vraiment très particulier, qui a un look incroyable, une présence assez fabuleuse, vous allez voir. Et c'est ça qui donne l'aspect rock'n'roll du spectacle. Hein. C'est pas au sens de la danse, le rock, mais... Il y a une chanteuse, 4 musiciens et 10 acrobates. On sera là entre le 24 mai et le 2 juin. Donc on est là à partir du vendredi 24 à 20h. Ce soir-là, ce sera suivi d'un concert ouverture avec les groupes La Marmaille et Non So DJs. Ensuite, on joue le samedi 25 à 21h, le dimanche 26 à 18h, le mercredi 29 à 20h, où vous pourrez, à l'après le spectacle, rencontrer les artistes. Tout le monde est très facile d'accès, très sociable, et il n'y a aucun problème pour les rencontrer après le spectacle. Le jeudi 30 à 21h, le vendredi 31 à 20h, et là, vous aurez la chance de voir après le spectacle l'Orchestre du Manchot, donc ce sont les artistes eux-mêmes qui feront le concert. Il y aura un autre groupe également, Calacuta Selectors. On joue ensuite le samedi à 21h avec encore un concert. Et enfin, on finira le 2 juin à 18h. D'autres projets sont en cours, pas tout signé. On a aussi l'ambition d'aller au Canada, à Montréal, au mois de février, il me semble, 2014. Voilà. Il y a un site internet, je pense que c'est le cubitusdumanchot.fr. Sinon, vous pouvez également avoir les dates sur le site de la grainerie, la-grainerie.net.
Radio Caravane.
Nous sommes toujours avec Joe Martinez et Pierre, qui a quelques questions à lui poser sur le cirque.
Quand vous avez commencé, à quoi ressemblait le cirque ?
Moi, quand j'ai commencé, le cirque existait depuis plusieurs siècles. Je suis vieux, mais quand même, je n'ai pas connu le début. Il y avait vraiment là une rupture. On en sort des années 70. Et là, moi, je n'étais pas tout à fait dans ces années-là. J'étais spectateur d'émergence, de compagnies qui se sont créées radicalement en opposition au cirque traditionnel de l'époque. Et entre autres, sur deux points essentiels qui étaient pas d'animaux. Et nous, on ne fait pas des numéros les uns derrière les autres. On fait un spectacle total qui se suit. Alors moi je répète, en plus j'étais pas du tout intéressé par les arts du cirque, j'ai été fou de faire voler des objets et de les ramasser plus souvent que de les faire voler. Donc ça c'est comment après on a pu s'ouvrir, mais je sais pas, je pourrais même dire un monocycle, je savais pas comment on pouvait faire de l'art avec un monocycle, ça paraît ingrat. Et j'ai vu des gens qui m'ont allumé complètement avec un monocycle, avec un tissu, avec des agrès qui sont ingrats. Et ça c'est génial je trouve. Après nous, on a beaucoup travaillé en salle. Ces compagnies, ces jeunes compagnies sorties du Lido sont allées ouvrir des marchés. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est bien de la vente de spectacles qu'il s'agit à des moments donnés, même s'il y a du fond, même s'il y a du social, même s'il y a de l'humain. Et on a envahi un peu les théâtres, même s'il y a eu des époques où il fallait sortir des théâtres, retrouver les habitants, les citoyens qui ne vont pas dans les salles, etc. etc. Après la prétention que l'on avait il y a 30 ans, je crains qu'à beaucoup d'endroits, on n'ait pas pu faire un spectacle total. On a souvent et des très belles choses qui sont des suites de numéros.
Pour vous, quelle est la place des cirques à ce jour dans la société ?
Toujours cette expression « faire ton cirque » ou autre, qu'on retrouve en politique et ailleurs. Bon, c'est pas ça la question que tu viens de poser. Moi, j'ai découvert le cirque, donc j'étais allé petit, hein, mais j'avais pas cette culture-là. Je pense, et on a la chance, même s'il y a des ambiguïtés, que le cirque est un art populaire puissant. Je rappelle qu'à Toulouse, il y a installé le Cirque de Noël qui fait 5000 personnes, je crois, à coup de 2500 personnes chaque année. Le cirque, comme d'autres arts, sont fondamentaux, période de crise ou pas, pour essayer de nous aider à tous pour réfléchir, trouver un décalage, peut-être même se divertir. Ça reste pour moi quand même aussi important. Après, si on a la question, on pourrait la prendre. Moi, j'ai envie de l'interpréter comme... Mais ce n'est pas ta question exacte. C'est pourquoi Toulouse Métropole, communauté urbaine de Toulouse, affirme depuis 3 ans maintenant, je crois, que le cirque est un marqueur identitaire du territoire. C'est-à-dire comment il s'empare de ça, à côté de l'aérospatiale, à côté de la violette, là on va dans les extrêmes, du cassoulet, du rugby, et comment on est complice de ça ou pas. Moi, à un moment donné, ça m'a fait plaisir de travailler à quelque chose. C'est est-ce que le cirque peut, pour des citoyens toulousains, être quelque chose qui leur donne une certaine fierté, quelque chose qui lui donne une certaine hygiène de vie, s'il en pratique, donc s'il a accès à des pratiques amateurs, quelque chose qui va lui permettre de réfléchir ou de rire à certains spectacles. Voilà, c'est plus là, mais restons modestes, quoi. C'est un long travail d'implantation, de développement des pratiques amateurs, d'implantation de compagnies professionnelles dans les communes de Toulouse Métropole ou autre.
Comment voyez-vous l'évolution du cirque dans le futur ?
Qui vivra verra. J'espère vivre longtemps et en parler dans quelques années. Question complexe. Il y a un courant du cirque qui est reconnu par le ministère de la Culture depuis des années. Moi, j'ai connu à l'époque, on était des saltimbanques qui n'étaient pas du tout reconnus. Et ce n'était pas qu'en France. Moi, il reste quand même une authenticité de la prouesse. Je crois que je n'ai pas prononcé le terme encore. C'est-à-dire, pour moi, il y a des spectacles, il y a des gens qui ont éteint le cirque et qui ont quitté le cirque, qui font de très belles choses au sens transversal, avec de la vidéo, avec de la danse, avec du théâtre, ce qui est incontournable de toute manière. Si on ne sait plus bouger, nous, on était des jongleurs extrêmement raides, des piquets. Or, tous les jongleurs aujourd'hui, et j'en ai vu encore plusieurs hier sur Lido, ce sont des danseurs de haut niveau, bien évidemment, ou des musiciens, plus, etc. Donc il y a une partie du cirque qui est complètement reprise par l'institution. Et tant mieux, les scènes nationales, il n'y en a pas à Toulouse, mais on va dire, il n'y en a pas toujours au TNT ou au Garonne, mais on en trouve au Dissud, on en trouve dans les lieux où avant c'était très difficile. Et il y a des spectacles extrêmement populaires, et là encore il y a des spectacles extrêmement pointus, difficiles d'accès, s'il n'y a pas de médiation, d'accompagnement pour expliquer à des gens. Je peux raconter une anecdote ici, si on en a le temps. On a programmé le Petit Travers l'autre jour dans leur spectacle qui sera présenté à Avignon cette année, qui sera représenté au TNT, je crois, l'an prochain. On avait offert des places à Culture du Cœur. J'étais assis à côté d'eux en bas. Ils sont partis à moitié de la séance. J'en suis malheureux. Ça me perturbe, donc il faut qu'on s'en parle. C'est-à-dire que on a offert des places et on a amené des gens qui sont arrivés sur une ambiguïté, qui sont peut-être attendus des animaux, qui sont peut-être attendus du clown. Bonjour les petits enfants, mais je fais exprès de caricaturer, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est que là, nous, on a une faille dans la médiation. Ça sert à rien de faire déplacer des gens ici s'ils ne comprennent pas et s'ils n'ont pas accès à ça. C'est un spectacle, même pour moi, complexe, musique concrète. Je ne suis pas initié, je n'ai pas les codes. Il y a plein de gens qui ont adoré autour de moi. Il y en a d'autres qui sont restés perplexes sur des choses comme ça. Donc c'est ça qui me semble important, de continuer à affirmer que dans le cirque reste de la prouesse, de toute manière, ou de la prise de risque, tendance très, très forte ces dernières années des jeunes, des jeunes issus de l'École nationale de Châlons, à des endroits où nous, on était aussi, pardon, je ne l'ai pas oublié, c'était un troisième point, c'était pas que dans le ventre du spectateur, ils ressentent l'angoisse de la peur de la chute. Ce qui était à un moment donné, les gens ils faisaient un double, un triple sur le fil, et ils tombaient, ils mouraient. Il y a eu je ne sais pas combien de gens morts en trapèze, grand volant ou autre. Nous, on n'était pas du tout là-dessus. Or, on voit des jeunes qui ont besoin maintenant, comme il y en a qui vont s'arsouiller tous les samedis ou tous les vendredis, qui vont boire des tonnes ou autres, qui vont prendre des risques en étant alcoolisés ou dopés. Là, on voit des gens du cirque qui ont besoin de mettre leur corps en jeu. Pourquoi vivraient-ils jusqu'à 100 ans ? C'est pas mes questions, je l'ai dit mal les leurs. Ça serait des questions à poser, je crois, justement, à cette jeunesse-là. Comment je prends des risques irréversibles ? Le tatouage, j'en ai un, c'est des exemples.
Justement, par rapport au public auquel est destiné les différents types de cirque, d'après vous, est-ce que le cirque nouveau a gardé une dimension populaire ou bien est-il devenu en quelque sorte élitiste ?
On y arrive un peu mieux là encore, la question, quoi. Excusez-moi d'avoir anticipé un peu. Moi, c'est une de mes préoccupations. Et il y a des parcours de compagnies néo-lido, accompagnés par la grainerie à des moments donnés. Il y a des compagnies qui sont pour moi sorties des arts du cirque et qui font des choses très bonnes. Après, est-ce que c'est toujours des financements art du cirque qui abondent de ces compagnies-là, ou est-ce qu'on est capable, les collectivités, qu'elles soient régionales, départementales ou l'État, de créer des lignes de financement transversaux ? Parce que j'aimerais bien que, je me suis exprimé comme ça à des endroits, à des échelons nationaux, hein. Je n'ai pas été obligatoirement entendu, je ne suis pas le seul à le penser, ces choses-là. Le peu d'argent qui va dans le cirque, je crois que c'est 1% du ministère de la Culture, aille prioritairement sur des gens qui sont encore sur la prouesse, à minima de la prouesse. Je n'ai pas dit que de la prouesse, je n'ai pas dit que des gymnastes, ce n'est pas du tout ce que je pense. Qu'il reste quand même cette entrée forte de leur corps qui a été tordu, travaillé, assoupli pour faire des choses auxquelles on n'est pas habitué, bien sûr avec la musique, bien sûr avec tous les arts croisés, etc. etc.
Aurélia a rencontré Aurélien de Culture en Mouvement. Nous l'écoutons.
Thank you.
sommes à la Grainerie avec Aurélien de Culture en Mouvement. Aurélien, peux-tu me présenter Culture en Mouvement en quelques mots et ta place
Oui. Alors, Culture en Mouvement, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 5 ans, qui fait de la culture partout, surtout là où il n'y en a pas. Et du spectacle vivant essentiellement, enfin principalement parce qu'on fait aussi de l'installation plastique, de la scénographie et plein d'autres choses dans le domaine de la culture. Le but, c'est de s'adresser en priorité aux publics qui ne sont pas les publics habituels des théâtres et des lieux culturels institutionnels, qui ont déjà ce qu'il faut, eux. Donc nous, on va s'adresser à ceux qui en ont moins. Et l'idée, c'est de faire de la culture populaire. Et moi, dans tout ça, je suis le cofondateur de Culture en Mouvement. Pour vous donner des exemples de ce qu'on fait en ce moment, pareil, on a le Tous en piste qu'on coordonne, qui va avoir lieu le 8 juin. C'est Albin Varette qui s'occupe de la direction artistique, qui est l'autre cofondateur de Culture en Mouvement. Là, je vais participer à un festival de théâtre au fin fond du Lot, et je vais parler des OGM dans un numéro que j'ai écrit. On a des spectacles d'improvisation, de théâtre. On a une invasion du musée des Augustins pour la nuit des musées. Enfin, on fait pas mal de petites choses, quoi, hein, de petites et moins petites, donc, parce que Toulouse en piste, on peut pas appeler ça une petite chose.
Alors, parlez-nous de vos soirées solidaires qui auront lieu à la Grainerie.
Alors, les soirées solidaires, c'est la troisième année qu'on en fait à la Grainerie. Donc, c'est une coopération entre la Grainerie et Culture en Mouvement. Et cette année, grande nouveauté, ce ne sont plus des lundis solidaires, mais des soirées solidaires. Il y aura donc deux soirées. Le dimanche 26 mai, à partir de 17h, il y aura le loto pour le réseau Éducation sans frontières, qui est désormais traditionnel, puisque c'est la troisième fois qu'on le fait. Et le mardi 4 juin, il y aura une soirée repas pour Amnesty International.
Alors, donc pourquoi avez-vous choisi de faire des soirées solidaires avec ces deux associations ?
Donc RESF, c'est donc une association qui s'occupe des enfants scolarisés en France, dont les parents sont sans papiers, sont appelés sans papiers. Et donc, ils s'occupent d'essayer de leur permettre de continuer à être scolarisés en France, malgré tous les problèmes administratifs et judiciaires que rencontrent les clandestins ou les personnes qui n'ont pas de papiers en France. Et cet asso, on travaille avec eux depuis très longtemps déjà, parce qu'il y a un côté affectif qui est que c'était une asso qui travaille beaucoup avec la Grainerie à l'initiative d'Isa Gorski qui nous a quittés malheureusement l'an dernier. C'est une très belle coopération et pour cet aspect affectif, on avait vraiment envie qu'elle continue. Et puis il y a aussi un aspect politique, c'est que quels que soient les gouvernements, les problèmes continuent et ne changent pas du tout pour les sans-papiers. Donc on continue à s'occuper de ces questions-là. Et le loto, c'est pour nous un vrai clin d'œil. C'est de l'humour un peu noir, un peu grinçant, mais pour dire qu'aujourd'hui, avoir des papiers en France, c'est une loterie. Quant à Amnesty, c'est la première fois qu'on travaille avec eux. Il y a plusieurs raisons. Encore une fois, leurs engagements. Hein. C'est une association qui défend les droits sociaux, mais surtout les journalistes, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté des femmes. Enfin, plein de questions très intéressantes en France et dans le monde, et la peine de mort, notamment, j'ai beaucoup travaillé avec eux autour de la peine de mort, enfin, ils défendent l'abolition de la peine de mort, bien entendu. Et sur Toulouse, ils sont très actifs, sur Balma aussi, et on voulait avoir un appui local pour pouvoir aussi travailler avec les habitants de Balma, avec les associations de Balma. Donc Amnesty correspondait totalement, surtout que c'est des gens qu'on connaît, qui sont motivés, qui sont investis, et c'est très sympa de travailler avec eux.
Donc le programme de vos deux soirées, donnez-nous envie de venir vous voir.
Alors la mission n'est pas trop dure parce que vraiment c'est des soirées super sympas. Le loto, bon, c'est comme un loto mais en mieux, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas le loto, n'ayez pas peur, vous pouvez venir quand même. Il y aura des spectacles, il y aura une présentation totalement burlesque et des super lots culturels à gagner. Il y a beaucoup d'acteurs de la culture toulousaine qui s'investissent chaque année. Beaucoup d'acteurs à gagner, oui. Mais vous ne croyez pas si bien dire parce qu'il y a des performances artistiques qui sont réalisées en direct pour les gagnants des kines et des cartons pleins.
Oh, c'est parfait.
Donc voilà, hein, on ne pouvait pas repartir avec le comédien de vos rêves, par contre, a priori, bon, enfin, ça c'est votre problème. Mais en tout cas, il pourra réaliser une performance devant vous et devant le reste des spectateurs. Tout le monde est un peu gagnant dans nos lotos. Et puis, donc, des places de théâtre, de cinéma, de concerts, des livres, plein de produits culturels, des restos aussi, des menus dans des restos. Tous les bénéfices reviendront à RESF, notamment sur le loto, ça sert vraiment à lever des fonds pour eux. Hein. C'est 3 euros le carton. Donc c'est pas cher, et ça pour ce qu'il y a à gagner en plus, et c'est de l'argent qui ira directement pour aider RESF. Et voilà pour le loto. pour la soirée Amnesty. C'est un bon repas, hein. Le Jaco fait quand même de la bonne nourriture, donc il y aura un bon repas et une présentation avec des petits spectacles, des petits sketchs, des interventions sur les questions que porte Amnesty, des films. Enfin, ce sera rythmé, ce sera aussi l'occasion de discuter tranquillement, de passer une bonne soirée ensemble. Et Amnesty, c'est plus pour leur faire de la pub, pour qu'on parle un peu de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que les tarifs sont aussi très abordables. Amnesty, le repas spectacle, c'est 10 euros. Dans les deux cas, il y a un bar solidaire, donc avec des boissons pas chères, avec de la petite restauration pas chère. Que dire de plus, ben les deux fois, c'est à la Grainerie, ça peut être l'occasion de découvrir le lieu. Voilà, je pense qu'il y a plein de raisons de venir, hein, du coup.
Donc, peux-tu nous rappeler un petit peu les dates ?
Oui, alors le 26 mai, le loto pour RESF, le loto artistique et solidaire pour RESF, 3 euros le carton plus petite restauration. Et le 4 juin, mardi 4 juin, à partir de 19h, la soirée repas avec Amnesty International, 10 euros, réservation impérative avant le 31 mai. Et tout se passe à la Grainerie. Dehors, s'il fait beau, et dedans, s'il fait moins beau. Il fera chaud dans l'ambiance, il n'y a pas de souci.
Nous invitons donc tous les auditeurs à venir participer à ces deux soirées avec les associations RESF et Amnesty International, organisées par Culture en Mouvement.
Reparlons un peu de la Grainerie avec Aurélia et Jo.
Foisonnants et nombreux, je ne sais pas si je vais pouvoir te répondre, je vais en oublier, mais il y a d'abord ce lieu de fabrique fondamental, c'est-à-dire un lieu d'accueil d'équipes en travail, qui souvent, dans la première Grainerie dont je parlais, même à la 2 et quasiment à la 3, comme on n'avait pas d'accès public, c'était ce qu'on appelle la partie invisible du spectacle. Donc c'est des gens qui viennent s'entraîner, qui ont besoin tout au long de leur carrière de continuer à entretenir leur corps, qui ne peuvent pas le faire chez eux. Des espaces de travail, souvent dans le cirque on est long, il nous faut 2 ans pour créer. Ça va jusqu'à 2 ans pour certains, il y en a qui peuvent faire un moins. Donc nous on a cet espace de travail ici, ce qui est beaucoup. Et on a besoin d'espaces chapiteaux pour créer aussi encore une fois, avant de recevoir du public sous le chapiteau, c'est la même problématique. Les axes pour la Grainerie, c'était donc d'être au service des compagnies. Si je continue, c'est de stocker. Pour l'instant, vous ne le voyez pas ici, ça va arriver dans quelques jours et ça va d'ailleurs diminuer les capacités d'accueil du site, d'accueillir les containers, qui sont des containers marins, maritimes, qui permettent aux compagnies de stocker leurs décors. Vous voyez qu'il y a aussi des camions, tout cela, c'est pas très glamour, mais c'est fondamental à notre travail, puisque fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Ensuite, il y a des bureaux de gestion. Alors, on n'en a pas assez, ils sont archibondés, il y a plusieurs équipes dans chacun. Et ça, c'est important, parce que c'est l'intelligence de regrouper dans un même lieu des gens qui, de porte à porte, vont s'échanger des astuces de gestion, de taux de TVA, de partir à l'étranger dans tel pays, qu'est-ce qu'il faut des comme visa, etc. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a l'aspect pépinière qui est important. Chez nous, on a donc un bureau, c'est un projet mutualisé avec le Lido, d'accompagnement de jeunes équipes sur 1 an, 2 ans, 3 ans. De jeunes équipes ou de structures qui font du cirque, pas obligatoirement artistique. On avait une école de cirque, par exemple, qui est déjà venue, où pour l'instant, on accompagne la compagnie du cirque Pardi, uniquement sur l'aspect justement de comment trouver à acheter le chapiteau, les remorques, les camions qui vont avec. Par les temps qui courent, c'est extrêmement complexe. Il n'y a pour des équipes pas d'argent public, donc comment ils font ? Ils sont des merdards aussi, mais comment on peut essayer de les aider, nous ? Ça, c'est l'aspect au service des compagnies. Après, nous, on a tout le travail de médiation qui me paraît essentiel, au-delà d'avoir des bonnes médiatrices et beaucoup d'actions ici, vous en avez déjà croisé. C'est, encore une fois, comment est-ce qu'on reste dans notre phalanstère entre nous, ou est-ce qu'on essaie d'ouvrir ce bâtiment ? S'il n'y a pas encore au maximum de ses possibilités là-dessus, il y a un restaurant, enfin une cuisine de restaurant qui arrive là, qui peut permettre aussi à des gens de venir manger. Donc ces aspects-là ne sont pas encore assez poussés ici, on est quand même, c'est toujours pas inauguré, on est encore à la fin des travaux. J'ai pas cité les hébergements qui vont avec, mais ça c'est la fonctionnalité, c'était inhérent pour nous à ce type de projet, comme un bloc sanitaire, bien sûr. Et nous, après, qu'est-ce que j'oublie de force, c'est qu'on a aussi des accueils de public, j'en ai parlé, mais aussi de soirées privées. Alors moi, j'arrivais peut-être au début avec quelques arriérés idéologiques là-dessus, mais c'est vraiment du tout public qui vient sur ces soirées privées, qu'elles soient faites par un comité d'entreprise, qu'elles soient faites pour fêter tel événement. On n'en fait pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui nous permet aussi d'avoir un peu plus d'argent, mais qui, là j'en suis convaincu aujourd'hui, permet de croiser des publics qui ne seraient pas venus ici, parce qu'il n'y a pas que le problème des classes populaires qui poussent la porte. L'accès à la culture est extrêmement complexe. Les statistiques s'affinent et nous le prouvent. Un ouvrier peut adorer l'opéra et un patron d'entreprise peut s'emmerder à l'opéra, donc c'est plus compliqué que ce qu'on a. Alors des fois, le patron d'entreprise est obligé d'aller à l'opéra pour faire son business, ou au Stade Toulousain, ce qui est... Bon, donc ils peuvent venir au cirque, allez, je m'amuse un peu. Et qu'est-ce que je voulais dire encore, c'est l'aspect après de... Nous, on est né de l'histoire de Lido, je crois que je l'ai répété X fois et c'est archivré, mais ça s'est complètement internationalisé en très peu de temps. Et aujourd'hui, vous entendez des gens qui parlent diverses langues ici, et au Lido encore plus. Et donc c'est nous, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, dans ces 10 dernières années, extrêmement intéressé, c'est ces liens avec l'Espagne, en lourde crise aujourd'hui, mais avec Barcelone, là, avec tout le Madrid, mais nous on a travaillé beaucoup sur l'aspect transfrontalier, ça sera réexpliqué je crois par d'autres mieux que moi ici, mais c'est aussi Bruxelles, c'est aussi ces liens avec d'autres, ça vous enlève des œillères, j'aurais tendance à dire, quoi. Ça règle pas tout. Mais là, nous, on a créé ce lieu Grainerie pour permettre aux équipes sorties du Lido, et on accueille majoritairement des équipes sorties du Lido, mais il y a d'autres équipes venues d'ailleurs qui viennent. On va accueillir des Malgaches, on accueille des Australiens, on accueille l'an dernier un mois et demi des Américains québécois, et c'est extrêmement important.
Jonas et Diane ont pu interroger Hélène pour nous parler de Pyrénées de Cirque.
Métellier, je travaille à la Grainerie à la gestion des projets européens et Pyrénées de Cirque est un projet européen transfrontalier qui se déroule de 2012 à 2014 qui réunit 10 partenaires en France et en Espagne autour de la structuration du secteur du cirque pour appuyer la diffusion, créer des réseaux d'espaces de création, appuyer également la formation et développer le cirque sur l'espace pyrénéen. Alors sur cet espace transfrontalier, c'est en Midi-Pyrénées que le cirque est vraiment le plus développé, on va dire. C'est là où il y a le plus de structures, comme la Grainerie, comme le Lido, qui est l'école de cirque à Toulouse, Circa à Auch, qui est un pôle cirque. Il y a aussi beaucoup d'artistes implantés et un fort intérêt des institutions pour le cirque. Ensuite, à Barcelone et en Catalogne, le cirque est assez développé. C'est une des régions en Espagne où le cirque est le plus important. On a un partenaire privilégié à Barcelone, c'est la Centrale del Cirque. C'est un lieu de création cirque, une fabrique de création qui ressemble un peu à la Grainerie, qui est un petit peu de la même taille. Voilà. Ensuite, sur le reste du territoire, à Bilbao, il y a au Pays Basque, en général, il y a des associations de cirque, plutôt jonglage, un peu plus émergentes que ce qui peut exister par ici, mais les pouvoirs publics programment aussi pas mal de cirques sur des festivals de rue notamment. Et voilà, donc du coup, le projet cherche à développer vraiment cet aspect-là au Pays Basque espagnol. Pour cette édition de Caravane de Cirque, il va y avoir pas mal de programmation en lien avec Pyrénées de Cirque. On va avoir une soirée en partenariat avec l'association Convivencia qui va se dérouler à la Croix-Falgarde le 25 mai, samedi 25 mai, où là, ça va être la présentation de 3 numéros de cirque. Ce sont des compagnies accompagnées par un dispositif d'aide à la diffusion de numéros qui s'appelle Chemin émergent. Donc on a un parcours cirque qui débute à 19h30 et qui se poursuit sur la soirée avec 3 compagnies de cirque, puis une fin de soirée en musique. Ensuite, dans le reste de la programmation caravane, on va voir les compagnies Fetama. Donc Fetama a reçu une aide à la création de projets Pyrénées de Cirque. La famille Goldini et Psirque, une compagnie catalane, qui ont été là accompagnées notamment par un bout de ce projet Pyrénées de Cirque, qui est une extension avec le projet Euro-Régional Process. C'est un petit peu un emboîtement d'accompagnement et de dispositifs. Et on va aussi pouvoir voir les spectacles de la Smart Company, de Nacho Flores.
Là, donc, vous êtes en Midi-Pyrénées. Et plus tard, vous avez prévu d'autres régions, d'autres endroits ?
Oui, dans le cadre du projet Pyrénées de Cirque, cet été, on va avoir pas mal d'événements mis en lien. Plusieurs événements en France et en Espagne, toujours sur la zone transfrontalière, qui vont programmer des compagnies et des équipes artistiques qui ont été accompagnées par les différents dispositifs du projet. enfin, l'ensemble de ses partenaires et de ses programmations peuvent être consultés sur le site de Pyrénées de Cirque, c'est pyrenesdecirque.eu, et on peut télécharger la programmation de cet été.
Pouvez-vous nous expliquer le concept de la soirée Dans les étoiles qui se produira le lundi 27 mai ?
Alors, Dans les étoiles, le 27 mai, déjà le titre fait référence à plusieurs étoiles, c'est la piste aux étoiles, le cirque et les étoiles du drapeau européen. Donc c'est une soirée qu'on organise dans le cadre de la Semaine de l'Europe de la mairie de Toulouse, en partenariat encore une fois avec Convivencia. Donc c'est une soirée assez atypique qui va commencer à 18h avec une table ronde qui questionnera les pratiques artistiques et les démarches créatives faites par et pour les personnes en situation de handicap. Ça sera suivi à 19h15 par la projection du documentaire « Quel cirque ?». Alors ça, c'est un documentaire assez étonnant qui retrace la création du spectacle « Complicité, je suis content d'être ensemble » qui a réuni 11 artistes handicapés mentaux et leurs complices circassiens non handicapés. Ce sont des artistes belges qu'on avait reçus il y a 2 ans pour Caravane de cirque. Donc c'est un spectacle très très fort. Et le documentaire sera également très très fort. Ensuite, à 20h15, il y a un numéro de cirque de Nicolas Chacle. C'est un artiste circassien sourd et qui mélange le jonglage, le mime et la langue des signes comme expression corporelle. En deuxième partie de soirée, on va découvrir le spectacle de Psirk. Donc Psirk, c'est une compagnie qu'on accompagne dans le cadre de Pyrénées Cirque et Process. Et ça sera une des premières représentations de leur spectacle Acrométria. Voilà pour cette rencontre complice dans les étoiles le 27 mai.
Sharon et Sarah sont allées voir Camille, technicienne à la grainerie.
Alors, je m'appelle Camille Furon et je suis technicienne polyvalente à la grainerie. Ça fait un an et demi bientôt. Voilà.
Quel est ton parcours ?
J'ai passé mon baccalauréat il y a 3 ou 4 ans. Après, j'ai travaillé dans la restauration et j'ai trouvé l'activité du spectacle, ça m'a attirée. Et je trouvais les moyens d'y bosser de manière bénévole au début. Et après, je trouvais le contrat CE à la grainerie que je fréquentais. Et du coup, j'ai réussi à me faire engager ici. Et c'est pas mal pour se lancer, en fait.
D'accord. Donc, exactement en quoi consiste ton poste à la grainerie ?
À la grainerie, du coup, on travaille avec Michel et Cynthia, le directeur et la régisseuse technique. Et du coup, nous, les techniciens polyvalents, on fait beaucoup de la maintenance de bâtiment, on s'occupe de ce grand lieu. Donc il y a plein de choses à réparer, que ce soit de la poignée de porte à la plomberie, aux joints ou aux poubelles. Et on a aussi la partie du ménage du bâtiment, c'est pas mal de boulot. Et après la meilleure partie du travail, c'est l'accueil des compagnies, des résidences, les montages, enfin tout ça, de monter les chapiteaux.
Donc en ce moment, avec le festival Caravane de Cirque, c'est une période spéciale un peu pour la grainerie. Et je me demandais si tu pourrais nous expliquer ton job du début du montage du festival à la fin, son évolution, comment ça se passait.
Bah, du coup, c'est la meilleure période, moi, je trouve, parce que c'est un peu là où on fait vraiment du spectacle, surtout à la grainerie. Pour le festival, nous, on a un travail en amont pour préparer tout ce qui est table, chaises et tout pour la cuisine et pour l'accueil du public, parce que la grainerie va être investie par rapport à d'habitude, il va y avoir beaucoup plus de gens. Et tout ce qui est un peu signalétique, panneaux, déco, de déco à la grainerie. Et sinon, quand les spectacles vont commencer, là on commence les pré-montages. Donc nous on va faire les montages avec les techniciens des compagnies qui viennent et leurs régisseurs. Et voilà, on participe au réglage, au montage, que ce soit des décors ou des agrès. Et on fait les démontages dans la foulée, et des fois on a des montages à la suite. Enfin là, c'est vraiment le gros moment de speed de la période où on a beaucoup de boulot. Et après le festival, il va falloir ramener tous les tables, toutes les chaises, tout ça. Voilà.
Et durant cette période, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des journées type ?
Je sais pas, parce que du coup, ça n'a pas encore trop commencé. Mais la journée type, c'est que pour le moment, là, la semaine est encore tranquille. On prépare, en fait. On met les salles bien en place, on fait des pré-montages. Et sinon, les journées types, c'est on arrive et en général, on a un tableau et on voit les missions qu'on a à accomplir. Et là, on a eu notre planning pour Caravane et ça va être surtout des démontages, du réglage, tout ça, quoi.
Et tu sais, durant le festival, en quoi va consister ton job ?
À accueillir les compagnies, être là dans la salle s'ils ont des questions, enfin aider Cynthia et Michel. Et on ne participe pas au chapiteau cette année parce que c'est des bénévoles qui s'en occupent. Du coup, nous, on ne sera que dans les salles de spectacle. Et moi, j'ai la chance de faire une création avec sur le spectacle des CM2 là, du Bean Circus. Du coup, je vais faire une création lumière. Donc là, je suis un peu privilégiée pour le festival sur ça. Et sinon, j'ai quelques régies aussi à faire. Et tout ça, avec les autres techniciens, on va faire ça. Mais nous, c'est monter, démonter. Le principal de notre boulot, c'est ça.
Quelle différence quand vous avez des troupes qui viennent avec ou sans leurs techniciens ?
Du coup, quand ils viennent avec leurs techniciens et leurs régisseurs, c'est plus simple parce qu'ils nous envoyaient des plans feu. Et nous, on peut pré-monter et après, on fait les réglages avec eux. Et quand il n'y a pas de technicien, bah là, normalement, enfin, sur le festival, ils ont tous leur régisseur, je pense. Il n'y a que la création avec le Bean Circus ou le Loto sans frontières, où c'est nous qui allons nous en occuper, quoi. Du coup, là, c'est à nous, la différence, c'est que c'est nous qui sommes à la régie et à la console, en fait. C'est ça. Sinon, c'est pas nous.
Combien de spectacles montrez-vous pour le festival ?
Ça, je ne sais pas encore pour le moment. Il y en a pas mal, mais on est tous dispatchés, du coup, là, je sais pas. Je les ai pas comptés encore. Ouais.
Y a-t-il d'autres techniciens à la grainerie ?
Ouais, il n'y a pas que moi, heureusement. Du coup, il y a Michel, notre directeur technique, Cynthia, la régisseuse, et il y a moi, François et Jeff, un technicien. Et Andréane travaillait avec nous auparavant, mais elle a eu un souci d'accident de travail. Du coup, maintenant, elle travaille plus avec l'équipe du bureau. On se retrouve à trois techniciens avec deux supérieurs. Voilà.
Bon, voilà. Ben, merci de nous avoir accordé cette interview et à bientôt.
Merci à vous. Hein.
Comment la grainerie accompagne les artistes en création ?
Sur nous, on est très timide, essentiellement pour des raisons financières. C'est-à-dire qu'on met des espaces à disposition, ça c'est l'aspect technique, pour que ces gens-là puissent travailler. Je m'aperçois que je n'ai pas dit un seul mot sur l'atelier. S'ils sont en création, ils ont souvent besoin de décors, ils ont besoin d'astuces techniques pour leurs agrès de cirque. Donc on a un petit atelier, très peu équipé encore, mais qui est inhérent à la création. Donc ils ont des ateliers pas bien équipés et des espaces de travail assez intéressants, bien chauffés, à peu près insonorisés, où ils peuvent s'enfermer à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, des jours fériés ou pas, et travailler. Ça m'apparaît toujours important. Ensuite, si on regarde comment elle accompagne les équipes de la pépinière dont je parlais tout à l'heure, on a des dispositifs plus poussés. On a une direction artistique qui vient les conseiller. On a une permanente qui vient les titiller, voir s'ils ont bien fait leur devoir, je fais exprès de parler comme ça, qui vient voir si ça avance, quelles sont les difficultés rencontrées, comment nous-mêmes, de notre côté, il faut se mobiliser pour les aider, des choses comme cela. Mais ceux où on arrive très rarement à intervenir aujourd'hui, c'est l'aspect d'un apport financier pour ces équipes-là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la coproduction, c'est quasiment un mot banni ici, sauf quand on a de l'argent européen qui permet d'accompagner certaines équipes, ce qu'on fait chaque année, mais sur des sommes assez faibles. Il se pose une question, comme il y a 7 espaces de travail ici déjà, ça fait beaucoup d'argent s'il faut accompagner chaque projet. Donc je crois qu'il y a quelque chose à redéfinir encore, et ça sera organisé après moi, ces choses-là, de comment retravailler cela.
Comment la grainerie arrive à garder son indépendance dans la programmation artistique ?
C'est un silence significatif. Ça dépend. Je vais essayer de faire un peu d'humour. Il y a Caravane de Cirque, on est là pour ça. Mais la programmation artistique de l'année, elle a été extrêmement réduite. Ça fait 2 ans et demi qu'on est dans ces bâtiments, qu'on peut accueillir du public. Dans le projet Grainerie, on croyait, quand on a fait dessiner les plans de la salle de création, je croyais que cette salle allait accueillir tous les mois une équipe en création et qu'elle allait rencontrer un public 10-15 jours. On a fait un seul accueil depuis même avant décembre sur c'est le petit travers que j'ai cité tout à l'heure, ce qu'on appelle les premiers tours de piste, ces temps de rodage. Alors que notre désir et la demande des compagnies est bien plus forte. Mais là encore une fois, c'est des problèmes financiers qui nous empêchent de faire une programmation. Par contre, on accueille, on est reconnu et merci au public qui est venu en masse tous ces derniers temps, que ce soit sur Plume, que ce soit sur la famille Morales, que ce soit sur Pagnoso. Ces équipes sont à la recette. Donc, si le public ne vient pas, c'est eux qui prennent le risque, c'est même pas la grainerie qui n'en a pas les moyens. Donc, c'est que de voir ces équipes repartir contentes, d'avoir pu jouer des séries, ce qui est rare en France, ce qui est extrêmement important. Pardon, là, on parle d'équipe avec chapiteau, ce que je n'ai pas précisé. Donc, on est sorti de la salle, on est sous chapiteau. C'est vraiment rassurant. Et j'espère qu'un jour, on pourra mieux accompagner ces équipes, bien évidemment.
Comment qualifier l'investissement des collectivités locales dans le cirque ou dans un lieu culturel tel que la grainerie ?
Le monde change, les collectivités, le millefeuille de l'empilement. Alors en gros, il y a la commune, il y a la communauté urbaine, il y a le département, il y a la région, il y a l'euro-région, que j'allais oublier, il y a l'État, puis il y a l'Europe. La crise fait que il y a des choses à redessiner. Là, actuellement, il y a des problématiques entre la communauté urbaine et le département. De redéfinition des charges des uns et des autres. Bien évidemment, un département qui s'occupe pour l'instant de la solidarité, qui lui va essayer de lutter pour le garder, il a beaucoup d'argent qui part sur le RSA, sur des choses comme cela. Donc il en a moins, il essaye de sauvegarder sur la culture, mais il ne peut pas aller plus loin. Donc il y a des redéfinitions comme ça. Ensuite, il y a une écoute bienveillante. Ils ont tous repéré les arts du cirque, aussi bien la ville de Balma, la ville de Toulouse, la communauté urbaine, le département, la région, marquent tous le cirque comme un élément important. Et c'est vrai que ça a permis à des grands créateurs reconnus internationalement d'écrire, de tracer leur sillon. Et moi, je rajouterais aussi à des artisans plus modestes de travailler. Moi, je ne cherche pas que les meilleurs. Je cherche à ce que, dans ce qui est possible, des gens qui ont les capacités de travailler. Enfin, je répète toujours le même exemple. Il y a besoin de boulangers dans tous les quartiers, dans les communes. Il n'y a pas besoin toujours du meilleur boulanger de France. Et comment on fait que les boulangers ont de la bonne farine, etc. etc. Pas transgénique.
Moment souvenir émotion, je réponds à Pierre.
Vous partez à la retraite dans quelques semaines. Quel héritage pensez-vous laisser à la grainerie et au cirque en général ?
Écoute, il y a des notaires pour ordonner les héritages. Hein, donc, je ne sais pas, je ne me sens pas encore à l'âme du notaire. C'est compliqué comme question, et bien évidemment. J'espère que je laisserai l'image d'un lieu ouvert. D'autres diront trop, mais moi je pense que c'est important, ce que je disais tout à l'heure, que des gens qui arrivent avec des nouveaux courants ou pas, par exemple la magie aujourd'hui qui arrive partout, comment on reste disponible, ouvert à des nouveaux agrès, à des nouvelles économies, ça aura été une de mes préoccupations, que ce lieu le reste. Après je ne peux pas te répondre du tout s'il va le rester. Moi ça n'a pas été un métier à demander, ça a été une passion. Pour avoir essayé pendant quelques années de faire un peu de changer la société, de voir que je n'y arrivais pas bien. On a essayé, je n'ai pas envie de dire jeu, là, on a essayé de construire des choses. S'il y a des gens qui me le disent, qui me le répondent, parce que bon, on en a pris un peu plein la gueule avec la mort d'Isa l'an dernier, des choses comme cela. Ça n'a pas été la chose la plus simple. Mais les gens nous disent, bon, vous avez Isa, elle a laissé des traces derrière, tout ça. Alors je ne suis pas encore dans l'aspect trace, je n'arrivais pas à voir que je vais disparaître bientôt, comme chacun d'entre nous. Mais ça, après, je vais avoir le temps d'y réfléchir.
Duo, le festival Caravane de Cirque approche à grands pas. Pouvez-vous nous parler de l'événement, de la programmation et des artistes à l'affiche ? Vos coups de cœur notamment ?
Je pense que le cubitis du Manchot, puisque je parlais d'Isa encore. Alors Isa, c'est Isa Gorski qui était salariée grainerie, première salariée grainerie, et qui a été victime d'une maladie, une saloperie de maladie il y a un an. Et elle a essayé de faire venir il y a deux ans le cubitus du Manchot, qu'on avait accueilli sous une forme d'un trio à l'époque, un super spectacle péchu. On essayait il y a deux ans, il y a un problème de calendrier de musiciens de cette compagnie, on n'a pas pu y arriver. Donc là, il y a un petit hommage sur ce gros spectacle de 15 personnes au plateau. Alors, ils sont fêlés complètement, en pleine période de crise, quand on sort d'un trio, de faire à 15 et de prendre en plus un chapiteau. Mais ils y sont arrivés et ils ont développé ce spectacle. Donc on va l'accueillir sur un des gros événements du festival. 8 séances, c'est celui qui est le plus copieux. Donc ça va se passer à la grainerie sous chapiteau. Enfin, c'est un spectacle qui m'a paru important d'amener. Voilà, ça, c'est déjà une chose. Après, moi, il y a un autre spectacle, ça fait 2 ans qu'on essayait aussi de l'amener, c'est Boustrophédon, qui est une compagnie qu'on avait accueillie 3 mois ici de création sur la fermée 2 ans. Et là, on a failli jusqu'au dernier moment ne pas y arriver encore une fois cette année. Et je suis vraiment content au dernier moment, suite à une difficulté de dernière minute avec Union, où il y avait vraiment un très bon accueil, la maison de retraite, on se connaissait déjà, parce qu'il faut des personnes âgées qui viennent sur le plateau avec les 3 artistes. Sur cette dernière difficulté, on a pu rebondir. Moi, j'y croyais même plus. Mon énergie s'émousse, il est temps que j'arrête. Mais Lucille, pour la nommer, a retrouvé à Pimbalma avec la maison de retraite médicale, le contact. On a pu à l'arrache le refaire. Et je suis content que ce spectacle tient, qui va concerner les plus que retraités. Donc, comme je veux être un néo-retraité, est-ce que je veux travailler mon futur? J'essaie de faire un peu d'humour là-dessus, mais je suis vraiment content de cela. On a parlé du trapèze grand volant, comme Calus va être là la première semaine. C'est une étape de travail, mais c'est fondamental de voir ces quelques Français, Italiens et Brésiliens faire des prouesses, et comment ils vont faire de l'art après, c'est ça qu'on va réfléchir. Mais ça me paraît important. Attention, ils ne seront qu'un jour sur les 2 annoncés sur le programme, puisque l'inauguration est repoussée à septembre. Nous avons appris récemment. Et moi, hier soir, j'étais au Lido et j'ai revu un extrait de Bizarre Concept qui sera au théâtre. Les 3 dans le spectacle dont j'ai parlé sont à la Grainerie. Et Bizarre Concept sera au théâtre du Grand Rond. Et je prends des fous rires sur leurs travaux. Le spectacle n'est pas encore fini. Il y aura 2 fois 20 minutes. C'est un travail complètement fou à base de balles qui lévitent avec ses cheveux. Et j'étais pas le seul à rire hier soir, je peux vous le garantir. Et ils sont aussi avec Thibaut tout court et Dorembus, qui sont dans un revival des années 70, je sais pas, l'affiche est horrible. Ils ont des perruques, des cheveux longs comme on avait à ces époques-là, des guitares électriques ou autre. On va voir ce que ça donne et les balles rebondent de Thibaut. Alors ça me paraît des belles soirées avec nos partenaires du Théâtre du Grand Rond.
Merci Joe de nous avoir accordé de votre temps et très bonne continuation.
Merci à vous, bientôt j'en aurai beaucoup plus.
Merci.
Radio Caravane, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous pendant le festival Caravane de Cirque du 24 mai au 9 juin. Venez nombreux, nous vous y attendons, ce sera un moment fort en émotion. Retrouvez toute notre actu et podcast sur le site www.radiocaravane.fr. Nous rendons l'antenne, à très bientôt.
Radio.
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 Radio Caravane.
Le cirque sur les ondes.
Et tu sais que les girafes, ça n'existe pas.
Ah bon ?
Eh ouais, c'est un coup monté.
Radio Girafe, des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr.